Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM. Money Time saison 5, épisode 16 ce soir avec autour de la table notre bande de chroniqueurs et on va commencer par toi mon Jean-Marc, comment tu vas bien ?
Ça va bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et j'en profite pour saluer l'équipe de 100% Canaries.
C'est parfait, on les embrasse. Et puis avec toi, c'est Charles. Comment tu vas bien, mon Charles ?
Salut Matt, salut à tous. Ça va très très bien et je suis très content de vous retrouver en ce lundi soir.
Et on te remercie de ta présence. Et à côté de toi, c'est Fabrice. Salut Fab, est-ce que ça va bien ce soir ?
Bah, salut à toute l'équipe et salut à Radio Prune. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonne émission.
Voilà, bah ce soir, on se retrouve pour débriefer l'actualité sportive. On a plein de choses à vous raconter et on va commencer cette émission par du hand. C'est Hashtime.
Hashtime, Money Time.
Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtime. Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on démarre cette page hand par les Neptunes. Et oui, notre équipe de filles. Et ce qui nous intéressait, c'était la Ligue Butagaz Énergie. Jean-Marc et la réception de Brest, le champion de France, finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière.
Et également de la Coupe de France où ils avaient battu Nantes.
Et ça fait beaucoup.
Et c'était beaucoup. Alors Nantes a très bien démarré, menant 5-3, si je me souviens bien. Et puis
5-2 même.
5-2, exact. Plus gros score en début de partie, 5-2. Et puis derrière, il y avait Cléopâtre Darleux qui a fait une fin de première mi-temps absolument magique, arrêtant tout, mettant au supplice les attaquantes nantaises. Du coup, à la mi-temps, Brest a basculé à plus 6 et même monté à 20-12 au bout d'une minute de jeu. Et là, par contre, Cléopâtre Darleux était sortie, remplacée par Sandra Toft, qui sur le papier, c'est plutôt pas mal aussi, la gardienne danoise. Et puis là, s'est révélée notre chère gardienne Floriane André, qui était toute seule, puisque Ada Poichek était absente pour cause de Covid. Et la troisième gardienne n'était pas là non plus, pour cause de blessure. Résultat, ça limite un peu hein, quand tu n'as plus qu'une joueuse sur le terrain. Qu'une gardienne, pardon, tu n'as pas de choix. Et elle a fait une super partie. Et Nantes va prendre l'avantage à la 51e, 26-25. Baston jusqu'à la dernière seconde du match. Et puis finalement, c'est Brest qui, encore une fois, a battu Nantes 32-31. Comme d'habitude, hein, ça fait... elles en sont à 11 victoires de défaite. Je vous rappelle que Nantes n'a toujours pas battu Brest. Et on va écouter les interviews.
Ouais, on commence alors avec Cléopâtre Darleux qui était au micro de Prune.
Avec Cléopâtre Darleux, après ce match de folie, cette victoire 32-31 de Brest, belle victoire, c'est très serré.
Oui, très serré. On avait le match en main et on a plus joué notre jeu en début de deuxième, donc vraiment très contente de la victoire parce que Nantes est vraiment revenu fort. Et voilà, fière des valeurs qu'on a montées sur la fin de match.
Un petit mot sur Floriane André.
Elle a fait une super deuxième mi-temps, celle qui permet à l'équipe de Nantes de revenir. Donc vraiment bravo à elle, elle a fait un super match et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Pas contre nous, c'est mieux.
Eh ben on écoute Floriane André alors, puisqu'elle nous lançait une perche, hein, Cléopâtre Darleux. Allez.
Non, je voulais te demander, qu'est-ce que t'as dit Bruno à la mi-temps pour te...
fallait que je reste présente, que ça allait jouer mentalement et que surtout si je commence à être fatiguée, que je me ressente sur le principal, c'est-à-dire la patience et rester concentré, focus jusqu'au bout et qu'on pouvait le faire qu'on pouvait le faire. À la mi-temps, on a un score de moins 6 et il m'a dit de rien lâcher, de jouer jusqu'à la 60e minute et je pense que j'ai réussi à le faire et grâce à lui aussi parce que mentalement il m'aide beaucoup. Je suis une jeune joueuse et j'ai un peu de mal. Dès que je suis un peu moins bien, c'est un peu compliqué de se recentrer. Et heureusement qu'il est là. Et ça m'a fait beaucoup de bien qu'il soit là.
Dernière question. J'étais avec Léopâtre Darleux qui a salué ton match. Ça fait plaisir quand tu es une gardienne comme elle.
Ouais. En se checkant, elle m'a dit très bon match. Ouais, c'est hyper gratifiant. Franchement, j'ai pas trop les mots parce que c'est une gardienne internationale. Elle le prouve encore et elle est excellente encore. Et oui, franchement, hyper gratifiant et que ça montre que je suis sur la bonne voie et que mec, il y a encore du boulot à faire pour essayer de la rattraper.
Merci beaucoup.
Merci
et encore
vous.
Bravo.
Merci.
Et je voulais qu'on écoute aussi Naïmi Ardouin, la petite jeune qui apparaît depuis le mois de janvier avec des belles stats.
Très on va efficace l'écouter. Sur son aile gauche, effectivement, Naïmi Ardouin au micro de Prune.
C'est assez impressionnant, c'est une grande fierté d'avoir pu participer à ce match et voilà, d'avoir pu être sur le terrain. Mais c'est vrai que malgré des bons efforts qu'on a fait, c'est vrai que pour moi c'est un honneur, c'est vraiment un honneur, ça fait très plaisir. Et j'essaie de prendre ça tant que je peux le prendre parce que c'est toujours du bonus. Après, je suis là suite à la blessure de Fille Voleur. Et j'essaie donc de faire un peu, j'essaie de donner tout ce que j'ai à donner en attendant qu'elle revienne. Et une fois qu'elle reviendra, bien sûr, je serai toujours là dès qu'il y a besoin pour que je rentre. Mais je pense qu'il y a à prendre et c'est vraiment super. C'est super bien.
Merci beaucoup, Naïmi.
Merci à vous.
Et elle se débrouille très bien, Naïmi Ardouin, au micro.
Débrouille très bien sur son aile, mais les Neptunes, avec ce résultat, occupent la 7e place de la Ligue Butagaz Énergie. C'est pas la place qu'on en attendait pour cette équipe.
Et au programme, mercredi, c'est Bourg-de-Péage qui était venu gagner à Nantes. Et ça sera du coup là-bas, ça va être compliqué.
Un déplacement difficile dans la Drôme. Et ce week-end, ça sera la Roumanie pour les Neptunes.
Début du match retour.
Ouais, le match 4 de la phase d'European League. On les suit, bien sûr, les Neptunes. Et ce résultat, de toute façon, est un grand résultat pour le club. Rendre qu'un but à Brest, Jean-Marc, c'est quand même...
C'est une belle perf.
C'est une superbe perf. Allez, on va enchaîner, on reste sur le handball, on débrief l'Euro qui s'est terminé hier. Pas de médaille pour les Bleus. La Suède est titrée 20 ans après son dernier titre. C'était la grande époque des Lovgren, Wislander, Vranjes...
Ça
que tu connaissais bien. Bah moi je suis content.
Exactement.
Voilà. Et puis Nantes a un champion d'Europe aussi, le H, en la personne de Linus Persson.
Exactement. Moi je vais revenir. Alors du coup, puis la Suède, c'est l'équipe qui a éliminé la France en demi d'un but, et la France qui aurait pu arracher au moins les prolongations. Et un Ludo Fabregas qui va rater deux occasions dans la dernière minute qui vont coûter cher.
Ouais, les braqueurs n'ont pas fait sauter la banque.
Ah non, alors il avait fait sauter contre le Danemark en demi-finale.
En demi-finale, et là, non, ce qu'on fait, non.
Alors après, il y a tout un tas de facteurs, de conditions fatigue, pour lesquelles ça s'est mal passé. Enfin, mal passé. Quatrième, ça reste déjà une performance. D'être sur le podium, juste sur dans les demi-finales, pardon.
Et puis
dans
le podium, tes champions olympiques, c'est un petit peu malheureux.
Quatrième, c'était notre place il y a un an déjà au Mondial en Égypte.
Oui, c'est ça. Et une nouvelle fois battu par la Suède.
Il y a eu cette embellie pendant les JO, mais bon, c'était les JO.
Le niveau est un peu
parenthèse
différent.
Enchantée. Mais on est retombé un petit peu.
On n'enchaîne pas deux titres d'affilée, quoi.
Après, bon, on n'a pas forcément une équipe qui est aussi rééquilibrée qu'elle était avant. On est toujours sur une phase de jeune entraîneur pour. Monsieur Gilles,
ouais, c'est ma question. On continue. Stop ou encore avec Guillaume Gilles.
Alors moi, je vais dire encore parce que je voudrais bien le voir dans des conditions normales. Parce qu'avec le Covid, les joueurs écartés cause Covid, ça a été un bordel sans nom. On a eu des joueurs qui commençaient à être performants, comme l'arrière. Vous allez m'aider, les garçons. Je l'ai plus en tête.
Quentin Mahé.
Non, celui qui ne fait que défendre.
On ne défend pas en attaque, nous.
Oui, bah.
Naï.
Non.
Dylan Naï, non.
Je
ne
l'aurais
plus.
Pas.
Bon,
c'est pas grave.
On ne va pas l'avoir.
C'est pas grave. J'avais pas prévu de parler de ça. Mais du coup, plein de détails des joueurs qui se sont écartés. On a vu Théo Monnard arriver en plein cours de compète. Il n'était pas là-bas. Hein. Il est venu en avion et tout. Et il a fait une belle perf. C'est lui qui chope le bon ballon pour battre les Danois, qui fait la bonne interception. Moi, je pense qu'il y a des réglages à trouver. On est sur un changement. Il va falloir trouver la bonne carbu. Après, les gardiens, c'était compliqué pour Vincent Gérard. Mais c'est surtout une fois... Parce qu'en fait, la France fait un super début de compète. Et puis, il va prendre un carton rouge pour le contre le Monténégro. Parce que suite à la nouvelle règle qui fait que dès que le gardien sort et effleure un joueur... que ça soit volontaire ou pas, c'est carton rouge pour le gardien. Du coup, il a pris un carton rouge, et ça, je pense que ça l'a un peu bloqué dans la suite de sa compète. Quant à l'autre gardien, il était en retour de grosses compétitions, hein, il s'était gravement blessé, Pardin. Donc, c'est ça que je vois aussi.
Moi je voulais en revenir sur un joueur comme Nicolas Caravazzi. Est-ce que s'il part, parce que l'équipe de France, ça va nous manquer. Contre le Danemark, c'est lui qui fait le match.
Qui fait l'action qu'il faut. Je suis d'accord avec toi.
Le coup de rein.
Pour moi, il ne doit pas partir. En plus, il n'est pas cramé. Après, tu as vu sur ce coup-là qu'il était moins utilisé pour justement le préserver sur les bons coups.
Joker, quoi.
Joker parce de l'équipe, quoi. Avant, tu le mettais tout le match, tu mettais 60 évidemment, minutes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais c'est important de le garder.
Je pense, ouais. On va revenir, excuse-moi, Mathieu. Ouais. Un peu quand on revient au football, un jour on a rappelé Zidane pour nous qualifier pour une Coupe du Monde et il est revenu, et contre l'Irlande, je crois, si je ne me trompe pas, et il est revenu, il a marqué, et voilà. Et on a été qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est un mec, Nicolas Caravazzi, qui est indispensable dans l'équipe.
Ouais, il l'était. Bon, maintenant.
Il est toujours.
Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Ouais, bon. On parle de Nantais. Pechmelbek qui découvrait la compétition. Bon, un petit tour et puis s'en va avec sa Serbie.
Il a fait de bonnes choses. Après, l'équipe est encore un peu trop fragile. En plus, il leur manquait leurs deux joueurs majeurs.
Ok. Nos Français, donc Mine, Monard et Brier. Bon, une entrée sur la pointe des pieds, mais Mine, plutôt une bonne satisfaction. Hein.
Des bonnes choses, ouais, Mine.
Pour les deux autres, pas assez de temps de jeu pour être jugé,
Mais des belles choses. Moi, chez Thibaut Brier, puisque Théo Monard, on ne l'a quasiment pas vu, Thibaut Brier a fait des bons tirs. Il a même impressionné tes commentateurs préférés.
Ouais, faudra voir avec le retour de Prandi s'il garde une place dans ce squad bleu. Nos étrangers, personne, on l'a dit, hein, qui rentre avec donc, la médaille d'or. Un ancien qui a brillé, Figueras.
Oui.
Le pivot de l'Espagne, hein, tout à son avantage, hein, alors que nous, on l'a cherché pendant un an hein, dans les 6 mètres de la H Arena.
C'est aussi pour ça qu'il est parti, c'est qu'il avait du mal à s'adapter au jeu. Ben,
tu vois qu'il a les automatismes, il les a retrouvés en sélection.
Ça prouve qu'il n'est pas mauvais, ce garçon.
Makeda qui va faire son retour à Nantes la saison prochaine, plutôt pas mal hein, sur 7 euros. Hein. Et puis, Odriozola qu'on n'aura pas vu.
Ouais.
Le jeune ailier, par contre.
Y aura des choses à voir. Et puis, pour ceux qui cherchaient Emil Nielsen, hein, il n'était pas là, il était à côté de moi à regarder les Neptunes.
Eh bien, écoute, on va le retrouver.
En pleine forme.
Ce week-end hein, pour le H avec un déplacement à Saint-Raph sur l'agenda. Bon, hier, il y avait deux matchs qui intéressaient les Américains. Nous aussi, on en parle.
Touchdown Panthers! Scores! That is utterly incredible! The lob to Jimmy. Oh! LeBron!
Les news des sports US.
Touchdown!
Tous les lundis de 19h à 20h.
Money time.
Et ça y est, on connaît l'affiche du Super Bowl, Charles.
Effectivement, c'était ce week-end les finales de conférence.
C'était hier. Cette nuit.
Effectivement. Et on a du coup deux bonnes surprises pour la finale. Côté AFC, c'est les Bengals qui un petit peu de nulle part vont aller chercher cette qualification pour le Super Bowl.
Redonne-nous le score du coup, puisqu'ils vont gagner en plus chez les Chiefs. Hein.
Ils gagnent chez les Chiefs 27-24, alors qu'ils étaient menés 24-3, je crois. Enfin, vraiment, ils étaient largement dominés.
Ils étaient à la rue complète.
Ils étaient à la rue complète. Et là, dans le dernier, dans les derniers quart-temps, ils retournent complet et le dernier field goals pour aller chercher sur la dernière seconde cette qualification. C'est magnifique pour les Bengals, surtout que ça fait un petit moment qu'ils sont pas allés en Super Bowl.
Mmh. Oui, ça fait. Alors.
81, je crois.
88
pour 88, un Super Bowl.
88.
Attends, Fabrice. 88 pour un Super Bowl et ils en ont jamais gagné. Et 91, c'était leur dernier parcours en playoff, leur arrivée en finale de conférence. Et je voudrais saluer leur quarterback Joe Burrow et puis Ja'Marr Chase aussi qui a été énorme à la course. Donc oui, l'énorme surprise, l'équipe de l'Ohio qui vient contre toute attente chercher une place contre et qui élimine Patrick Mahomes, l'un des meilleurs
NFL qui était ressorti l'année dernière avec une défaite face aux Buccaneers il y a deux ans champion avec Kansas les Chiefs. Donc c'est vraiment une belle performance, très grosse performance des Bengals de les avoir sortis cette année. Et ils seront rejoints du côté de la NFC par les Los Angeles Rams, ceux qui du coup joueront à domicile ce Super Bowl finalement.
Exactement, puisque ça sera au SoFi Stadium d'Ingleton en Californie, c'est-à-dire juste en dessous de Los Angeles. Et moi, j'en profite pour saluer Xavier, puisque le quarterback de Los Angeles, des Rams, n'est ni plus ni moins que Matthew Stafford, qui a galéré pendant des années chez les Lions de Détroit. Et il a enfin une équipe à la hauteur de son talent de quarterback. C'est un quarterback d'une précision radicale. Et à la réception de passe, il y a Odell Beckham Jr. qui, lui, avait eu son contrat cassé par les Browns l'année dernière. Il avait été super sur le parcours des Browns avec Mayfield. Et puis, le contrat cassé juste en début de saison. Du coup, il se retrouve chez les Rams et ça prouve que le recrutement des Rams est absolument merveilleux.
Et donc,
et le score final, du coup, c'était
20-17 pour les Rams qui jouaient face aux 49ers de San Francisco. Qui est favori pour la finale?
Alors moi, je vais te dire...
Les Rams.
Pour moi, c'est les Rams. Bon, mais les Bengals sont tellement magiques qu'on ne sait jamais. Je pense que le Super Bowl qui aura lieu dans 15 jours, hein, je vous rappelle qu'il y a le Pro Bowl entre les deux, méritera son pesant d'or parce que c'est deux équipes qui ne sont pas favorites. Hein. Ouais. Les Bengals, c'est une équipe qui est sortie de wild card, donc elle n'était pas première de poule. Et pareil pour les Rams d'ailleurs.
Mmh, aussi, donc c'est donc, deux équipes c'est surprise.
C'est deux outsiders.
C'est deux équipes qu'on ne pariait pas en début de saison. Mais par contre, elles nous ont donné un spectacle de fou et c'était génial, quoi.
Alors, pronostic.
Moi, je vais mettre les Rams, allez. Pour Matthew Stafford et Odell Beckham Jr.
Bah, tu vois, moi, pour la bonne surprise, je vais mettre, et surtout qu'ils l'ont jamais gagné, je vais mettre les Bengals.
Ouais, bah, c'est bien aussi.
Allez,
c'est
je
bien
suis aussi. Les Bengals.
Bengals aussi. Pour
et
moi.
Mathieu ouais, ah, bon, on est 3 contre 1.
On en parle. C'est dans 15 jours. Hein,
si c'est dans 15 jours. Il y a le Pro Bowl juste avant. Ça sera le 13 février.
Et si Jean-Marc il gagne, il est seul. Donc on va entendre parler pendant longtemps.
Et c'est diffusé sur l'équipe, donc c'est en direct. En plus, c'est en clair.
C'est diffusé en clair, comme depuis deux ans, sur l'équipe et également pour ceux qui préfèrent les commentaires sur Bein.
Allez, on revient du côté de Nantes. On va parler des clubs du bord de Loire. C'est score en stock.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock.
Money time.
Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez Jean-Marc, on t'écoute pour les résultats du week-end. Et je crois que tu voulais commencer avec le football et les féminines.
Exactement. Alors, c'était la Coupe de France, c'était les huitièmes de finale, comme les garçons. Nantes qui menait 2-1 à la 85e, a encaissé un deuxième but. Résultat, 2-2. Au tir au but, Nantes s'incline 4-3. C'était à Soyaux, c'était la belle performance. Éliminé, et bah peut-être pas forcément, puisque Soyo a fait jouer une joueuse, alors je crois que c'est Binatouré, je suis pas sûr sur le nom, A posé une réserve puisque cette joueuse avait déjà joué avec Wapi quelques tours de Coupe de France. Et pour la Coupe de France féminine, tout du moins, c'est interdit de commencer dans un club et de finir dans un autre.
Ouais, avec Auxerre, elle avait joué.
Auxerre contre Wapi. Ouais,
la réserve a une chance d'aboutir.
Je pense.
Tu crois?
Vraiment. Parce que là, il y a vraiment une faute grosse boulette, quoi.
Okay.
Ah oui. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de match à rejouer, c'est défaite sur tapis vert.
C'est une erreur administrative, entre guillemets.
C'est con d'avoir fait ça, oui, tu peux le dire.
Mais du coup, nous, ça, bah, nous, c'est, ça nous réserve.
On saura
ça
bientôt.
On se retrouverait à quel niveau de la compétition?
Et quart de finale, les garçons.
On en parle plus tard, des garçons. Allez, on enchaîne avec des résultats de volée.
Exactement. Alors, les féminines, elles, jouaient contre France Avenir. Victoire à domicile, c'était samedi après-midi, 3-0, 25-17, 25-23, 25-17. Une victoire, somme toute, assez logique. Les Nantaises sont troisième. Et jour en jour, je l'ai mis où ? À Saint-Raphaël, le 5 à 19h.
Eh ben, c'est samedi.
Exactement.
Les gars ne jouaient pas, je crois.
Alors, les gars, ça a été reporté. C'est tout un bazar dans le calendrier.
COVID, du volet qui ne fonctionne pas.
C'était contre Chaumont, ça ne sera pas le cas. Donc, du coup, vendredi, ils vont jouer contre Toulouse à domicile.
Est-ce que le calendrier permettra, justement, de rejouer tous ces matchs? Alors, ça risque d'être un peu compliqué, là.
Le truc, c'est qu'ils pourraient réduire les play-offs.
C'est ça.
Ils pourraient sucrer un tour de play-offs pour être sûr d'avoir... Après, il y a quand même une marge sur le calendrier de volley, donc c'est possiblement jouable.
Ouais, ou faire deux matchs dans la semaine, hein, comme ça se fait dans d'autres sports. On enchaîne avec le basket.
Exactement. Alors, on reste avec les féminines. Du coup, c'était le CSP déferlante qui avait fait une belle prestation le match d'avant, et là, s'est incliné à domicile contre Toulouse, 56-83. Elles sont 9e sur 12, 5 victoires, 10 défaites. Et du coup, le 5, donc samedi, elles se déplacent à Cherbourg. Pour les garçons,
c'était la réception de Lille. Dernier match pour l'entraîneur JB Lecronier.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Donc c'était le dernier match, on le savait un peu avant, de Jean-Baptiste Lecronier. C'est un choix, moi je suis un peu triste, j'aimais beaucoup les conférences de presse de Jean-Baptiste. Et puis, pour son dernier match, ses joueurs se sont inclinés lourdement, 66-90. Ils sont milieu de tableau, ça va être compliqué
d'aller chercher les playoffs.
Hein. Alors demain, présentation du nouvel entraîneur, Jean-Marc Duprat. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec Pascal.
Non, jusqu'à preuve du contraire, aucun.
Prochain match, ça sera vendredi.
On espère dans le tempérament quelques similitudes pour porter cette équipe qui a bien du mal...
Alors, il aura un match du coup à Antibes le vendredi prochain, et puis après, ça sera le 11, donc il aura un petit peu de temps de travail si on met de côté ce match d'Antibes.
Parfait, allez, très bien, on enchaîne. Parle-nous des hommes de Martin Lacroix. Je veux bien sûr parler de hockey et des Corsaires.
Exactement, les hommes de Martin Lacroix qui se déplaçaient chez les Bisons de Neuilly.
Pour quel résultat?
Eh ben, ils se sont inclinés 5-4.
Neuilly est un sérieux prétendant à la victoire. Hein.
Oui, Neuilly est au-dessus, mais bon, à voir. C'est dommage parce que Nantes était revenu à égalité 4 partout grâce à Fred Bergeron. Et puis, à la 55e, c'est Hugo Damy, un ancien Nantais, qui donne la victoire au Bison. Bon, ben, encore une petite défaite au classement. Nantes est 8e. Avec 22 points, le premier c'est Cholet, 44 points.
Le voisin Choletais.
Exactement, le voisin Choletais qui s'est réjoui de la victoire d'Angers en Coupe de France, puisque le buteur c'est un gars formé à Cholet qui s'appelle Gabory. Donc bravo à lui. Au programme, et ça va être chargé demain, déplacement à Caen chez les Dracars, et puis samedi, réception de l'Étoile Noire, qui est 7e.
Allez, on espère des gros points pour les Corsaires. Un mot du Stade Nantais pour terminer.
Exactement. Alors le Stade Nantais, je vais vite revenir sur la semaine dernière, j'avais oublié de vous donner le résultat. Et cette victoire 33-27 à l'arraché sur Gennevilliers, avec un carton rouge à la 16e et un carton blanc, donc qui signifie expulsion à la 68e. Donc Nantes qui l'emporte un peu sur le fil. Ils avaient vu les Gennevillois les rattraper de très près. Alors, il n'y a pas eu le déplacement à Poitiers. Du coup, match annulé. Et puis, ça sera samedi prochain match. C'est la réception de Tours. Match indiqué à 18h30. Surveillez parce que ça peut changer avec le rugby. Ça peut être plus tôt.
Effectivement, affaire à suivre. Allez, il nous manquait un résultat. C'était celui du FC Nantes. Mais on en parle tout de suite dans le Prune Football Club.
Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on vous parle du FC Nantes, on vous parle de Coupe de France. C'était la réception du voisin brestois, Fabrice.
Ouais, et puis là, bon, il n'y a pas eu photo. Ludwig Blas avec
un doublé.
Dans un grand jour, franchement, il a été exceptionnel. À lui tout seul, il a su renverser la vapeur. Deux beaux buts en plus.
En première mi-temps.
Et voilà. Donc maintenant, on attend le tirage au sort pour savoir. C'est peut-être le but de Nantes cette année, c'est d'aller chercher un titre. Ça fait longtemps qu'on le cherche, qu'on l'attend. Mais la Coupe de France, peut-être, pourquoi pas.
Ouais, tu parles de tirage avant de connaître notre adversaire. On va voir ceux qui se sont qualifiés, Jean-Marc.
On le saura ce soir.
Ouais. Exactement. Alors, sur les tablettes, vous avez Monaco qui a battu Lens 4-2 à Lens.
Quel match ?
Un superbe match.
Monaco qui
menait 3-0. Lens revient à 3-2. Finalement, 4-2. Ben Yedder qui met deux buts. Marseille qui l'emporte
face à Montpellier au pénalty.
Exactement, c'était très serré, un partout sur le résultat du match.
Et 5-4 au tir au but avec celui de Dimitri Payet qui vient offrir du coup la qualification du côté montpelliérain. C'est
il reste des
plus petits. Nancy battu à domicile par Amiens, donc c'est Amiens qui passe 2-0.
Une équipe de Ligue 2.
Une deuxième, Bastia qui a été gagnée à Reims
au tir au but.
Bergerac qui bat Saint-Etienne.
L'exploit. Le petit pousset
sur un but à la 80e, je crois.
C'est ça, à la 79e, si je crois bien. Mais Bergerac a... Excuse-moi. D'ailleurs, Bergerac a décidé de laisser la.
Non, c'est un fake. On a bien rigolé avec ça, mais c'est un fake.
Et puis la grosse surprise, c'est Versailles qui l'emporte.
C'est pas Versailles ici.
Mais
c'est magnifique.
Leader de Ligue 2.
Ligue 2 qui gagne à Toulouse. On vous rappelle que le match avait été inversé pour des questions de terrain et de sécurité.
Ouais.
Donc Versailles n'avait pas pu jouer à domicile. Et j'écoutais Jean-Luc Haribar, qui est le directeur du pôle sportif de Versailles, qui essaye de construire une grosse équipe, et qui disait qu'il se voyait bien croiser le PSG pour faire peur à Kylian Mbappé. C'était un peu en mode boutade. Mais il veut bien aller jouer au parc contre le PSG, ça l'amuserait beaucoup.
Et si on pouvait éviter au... De toute façon, le tirage, c'est à 20h, je crois, avant le match.
C'est juste avant le match.
Voilà, on aura le tirage.
Ouais. Je sens un tirage favorable, et à la maison en plus.
Rappelons que, oui, et PSG n'est pas encore qualifié. C'est soir qu'il joue contre Nice.
Mathieu, favorable, de toute façon, à ce niveau-là, il reste que Bergerac et Versailles à taper. Quoi, parce que
ça serait pas mal de prendre équipes. L'un des deux.
Il y a des grosses équipes.
Bastia, c'est joueur de
chance. On a 4 chances sur 7 d'obtenir un tirage favorable. Versailles, Amiens et Bastia, c'est des tirages très abordables pour Nantes, quand on voit ce qu'ils ont fait face à Brest.
Nantes-Amiens à la Beaujoire, ça me plairait.
Non. Nantes-Bastia.
Non, j'aime pas Bastia, je suis désolé, je veux pas voir Bastia.
Bon, on attendra 20h.
Je veux que Bastia tombe sur Marseille, à Marseille.
On attendra 20h pour se réjouir. Un mot de la CAN, on jouait les quarts de finale.
Excuse-moi, mais... Jean-Marc a déjà fait le tirage.
Voilà, j'ai déjà fait le tirage à Eurosport.
Voilà, on va. Parce que vu, tu refais tirage de la Ligue des Champions, pareil. On l'a refait
oui,
la même.
Oui. Ben voilà. Ça peut être
toi qui fais le tirage, je vais envoyer. Très bien. Donc on a dit Nantes Amiens.
Ou alors Bastia Marseille à Bastia.
Allez,
je serai en hommage.
Allez, on bascule sur la CAN. C'était les quarts de finale.
Et justement, il y a une équipe qui ricane, c'est le Cameroun. Ouh. Ah oui, non, mais là, c'est, elle a recherché celle-là. Le Cameroun, à domicile, a battu la Gambie 2-0, qualifié donc pour les
grâce
demi-finales.
À un certain Toko Ekambi.
Exactement, le joueur lyonnais magnifique qui offre la victoire au Cameroun. 5 buts en 5 matchs pour lui. Bah, c'est un des meilleurs buteurs de la CAN.
Alors, le meilleur buteur, c'est Vincent Aboubakar, oui, à 6 buts.
Donc, c'est parmi
aussi
les
camerounais.
Buteurs. Aussi camerounais. Et donc vraiment, on a une belle équipe du Cameroun qui se sont imposés, qualifiés donc, et qui défiera l'Égypte, les pharaons qui sont qualifiés aux dépens du Maroc de Buzyn en prolongation.
Qui a galéré contre
le Maroc.
Le Maroc, hein, c'est Sofiane Boufal qui avait ouvert le score
sur penalty.
Deuxième mi-temps, Mohamed Salah est là pour mettre sa tête. Et c'est en prolongation après.
C'est très aigué, le but en or.
Exactement, c'est très aigué pour le but en or. Exactement
encore.
Ça. Non, c'était magique. On va revenir, si on regarde juste le match, c'était vraiment pas un beau match.
Non.
C'était assez ennuyeux. On n'applaudira pas le gardien qui était blessé aux adducteurs, qui ne voulait pas sortir, mais qui a réussi à gagner quand même un bon quart d'heure en se roulant par terre.
Ouais, non, mais c'est ça.
Après, vous regardez les demi-finales, bon, c'est pas surprenant quand même. On a l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal, la seule équipe qui est. C'est le Burkina Faso, quoi.
Ah, le Burkina Faso était magnifique.
On n'a pas donné les résultats.
Face à la Tunisie, belle victoire, 1-0.
Voilà. Donc, moi, je dis bravo.
Très, très beau match.
Bravo,
et totalement mérité.
Ils ont fait une belle poule. Et ils sont là, et c'est très bien pour eux. Je suis content pour eux.
Et du coup, c'est les...
Burkina.
Les étalons.
Les étalons.
Les étalons, parce qu'on l'a fait il y a 15 jours, celle-là.
Oui, non, mais c'était pour voir si tu te rappelais, en fait.
Oui, je me rappelle.
Et donc, le Burkina Faso qui affrontera du coup, le Sénégal, vainqueur de la Guinée équatoriale, 3-1. Donc, nos amis sénégalais qui affronteront le Burkina Faso dans un duel. Ça va être très serré. Ça va être un beau match entre les deux. Et donc, seule l'Égypte représentante de l'Afrique du Nord.
Le prono, c'est soit un duel de Lyon entre les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. C'est soit un duel entre les deux joueurs de Liverpool, Mané pour le Sénégal.
Ça aurait de la gueule, ça.
Salah pour l'Égypte.
Égypte-Sénégal.
Burkina face au Cameroun.
Je le verrais bien, celui-là, les étalons, moi.
Ok, Charles.
Allez, Sénégal, Sénégal-Égypte, ça ferait une belle finale.
Je pense que ça peut être intéressant.
Ouais,
donc, demi-finale dans la semaine, et ce week-end, ça sera la finale.
On attend des gros matchs, quoi, et il devrait arriver cette semaine.
C'est possible.
On espère. Allez, pas de championnat étranger cette semaine. On passe au reste de l'actualité sportive. C'est multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone.
Money time.
Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on attaque avec l'événement du week-end. C'était bien sûr la finale de l'Open d'Australie, Charles.
Quelle finale!
Un match extraordinaire, d'anthologie.
C'est, que dire, les émotions,
on frissonne
les larmes
encore.
Étaient là, c'est incroyable, c'est un des événements les plus grands, dans l'histoire du sport récent, on va dire, c'est le 21e.
Tu parles de la victoire d'Ashley Barty contre l'américaine Danielle Collins.
Restons sérieux, Jean-Marc, s'il te plaît.
Non, tu parles du double avec la victoire de Nick Kyrgios.
Charles se rejoint, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un événement sportif comme ça. C'est grandiose.
De telle émotion, avec un tel match, avec un renversement, mais mener 2-7-0, Nadal qui arrive à renverser.
Sauve une tête de break.
Qui sauve 3 balles de break à 3-2 pour Medvedev.
On rappelle, face au bourreau de Djoko, hein, Medvedev qui avait privé à Djoko le 21e titre à Flushing.
Et oui, et le fameux Grand Chelem calendaire. Et là, Djokovic... Malheureusement, qui n'est pas présent pour raison, il ne veut pas se faire vacciner. C'est son choix, il connaissait les règles.
Il a pris rendez-vous sur Doctolib, là.
C'est il veut du Novax, le Djokolib. Vaccin qui va sortir.
C'est Doctolib. Non, mais résultat, Nadal, qui pourtant n'est pas favori. Il a eu une dure blessure, il a eu des blessures juste avant. Il a eu un mois sans s'entraîner. Il est revenu à l'entraînement il y a très peu de temps, finalement.
Il a souffert.
Fracture du poignet, hein, qui le l'embête depuis des années.
C'est très très compliqué. Et là, il gagne Melbourne en début, en préparation de l'Open d'Australie.
Ouais,
et
face
là,
à personne, hein, c'était vraiment.
Ah oui, mais c'est déjà, mais ça met déjà, ça met en confiance. Et puis là, il nous sort finalement un tournoi, mais
on menait 2-7-0. 3 jeux à 2, 0-40 sur son engagement, on se dit, il va perdre en 3-7.
Il va perdre
en
3-7. Et à ce moment-là, moi aussi, je me dis, il va perdre, c'est pas possible. Et là, à chaque fois, il a 15-40, 30-40, 40 à. Et là, il arrive encore, et là, il repasse. Et là, au moment où il prend le. Il avait déjà eu l'occasion dans le deuxième set, il dominait, il avait breaké, ouais. Il pouvait gagner, il pouvait prendre ce deuxième set. Et là, il le prend pas. Et là, dans le troisième, à ce moment-là, on se dit, c'est fini. Et pourtant, il revient. Et quand il prend le quatrième, et quand il prend le troisième set, on se dit, c'est l'histoire qui va s'écrire. C'est le moment, c'est la bascule. C'est... Et on le voit, il domine, il est surpuissant. Medvedev, il peut rien faire.
Excuse-moi, il a changé de jeu à un moment.
Oui, oui, totalement.
Il a changé de jeu, il a changé de tactique. Parce qu'il attaquait trop et il s'est rendu compte que Medvedev, il renvoyait tout. Et c'est lui qui a absorbé après les coups. Mais Nadal, il est phénoménal. Quoi. Il absorbe les coups comme tu peux tout envoyer, il n'y a pas de problème. Et renvoyer. Et Medvedev s'est fatigué.
Exactement.
Il s'est fatigué de la pourcentage de réussite de Nadal. Et voilà, ça l'a usé. Et Nadal est.
On sentait qu'un match en 5-7, c'était tout bon pour Nadal. Eh
oui. Hein. Bah, pas oui. Forcément, mais dans le 5ème, parce que Nadal, il a quand même beaucoup joué aussi pendant ce tournoi, Medvedev aussi. Mais Medvedev a eu, cette, par exemple, face à Félix Auger-Aliassime en quart de finale, il a été mené de 7-0, il gagne à la fin 3-7-2. Donc il sait quand même gérer Medvedev. Il a quand même des qualités pour ça, sachant que Nadal a 35 ans, Medvedev en a 25. Dans le 5ème set, on voit au début du 5ème set qu'il domine complètement, qu'il est au-dessus. Et puis à un moment, on voit quand même Medvedev revenir. Les jeux de Nadal sont plus compliqués à les chercher. Et à 5-4, quand il sert pour la victoire et qu'il mène 30-0, on se dit c'est fini. Et pourtant, là, à ce moment-là, Medvedev revient et on se dit ça peut refaire la bascule en se disant Nadal a eu l'occasion, il l'a pas prise et finalement, bah, c'est pas pour lui.
Alors.
Et quand il rebreak tout de suite, déjà, ça met un coup au moral pour Medvedev. Et là, bah, on sait qu'il refait jamais la même erreur de fois
d'affilée. Charles, excuse-moi, mais est-ce que Medvedev, je le dis aussi, est-ce que le public n'a pas joué un peu?
Mais ça joue forcément, parce que la
parce que
public,
Medvedev
n'est
pas aimé.
Mais c'est pas que Medvedev n'est pas aimé, mais il fait pas
y a une raison. Il est aussi grossier que son président, donc à un moment donné, il le paye. Hein.
Évidemment, mais c'est vrai que le public était pour Nadal, le chouchou. Bah, et Medvedev l'a senti, il le dit d'ailleurs. Il sera peut-être pas là Roland-Garros, parce qu'il le dit. Quand je fais une finale d'un grand chelem, le public est contre moi.
Mais c'est
alors,
aussi,
est-ce que ça a joué dans la finale?
Tu dois voir aussi, parce qu'il provoque le public pendant
Jean-Marc,
tout le machin.
Est-ce que pour toi, ça a joué?
Mais ça peut jouer. De toute façon, il est galvanisé depuis 15-20 ans, notre ami Nadal, par le public.
Ouais.
Il est adoré
partout où il passe, ce gars. Depuis 2018,
ça fait 3 ans d'affilée qu'il gagne le trophée du joueur le plus fair-play, le plus honorable chaque année. C'est pas pour rien. Et Nadal, c'est un joueur qu'on apprécie parce qu'il est humble, il fait pas de sortie exubérante, il provoque pas le public, c'est quelqu'un qui est adorable.
Je vais dire un truc. Là, quand il a fait son truc, il était en train de se reposer après la finale. Il était sur son vélo en train d'essayer d'enlever les lactiques. Il y a Rod Laver qui rentre dans cette salle pour le féliciter. Il arrête et il va le voir et il descend de son vélo et il va le voir et il dit. Et il était touché que Rod Laver vienne le voir.
Ouais.
Ce mec-là a un peu d'humilité quand même.
Quand tu vois les commentaires de Federer, ce qu'il lui a dit, il dit « Mais c'est un honneur de t'avoir rencontré pendant 18 ans, d'avoir joué avec toi pendant 18 ans contre toi. »
Une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis.
Évidemment, Djokovic qui dit « Bravo, c'est formidable ce que tu as fait. »
Pas sûr qu'on dira ça de Medvedev.
Non. Et,
c'est différent.
Mats Wilander, il a dit « Je n'ai jamais vu un mec avec un mental aussi énorme. »
Non, mais ce mec a un mental doux.
Il est surpuissant.
Ce qui fait que déjà, il égalise Djokovic dans le fait d'avoir gagné au moins deux fois
tous les tournois
du Grand Chelem dans les Open. Hein, ça a déjà été fait par Rod Laver notamment. Et en plus, il est le premier à avoir 21 grands chelems.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de tennis de tous les temps? C'est un débat qu'on ne va pas avoir ce soir.
On n'aura pas ce débat ce soir, d'autant que Djoko n'a pas pris sa retraite encore. Donc forcément qu'il y en a.
Mais Djoko n'ira peut-être pas à Roland-Garros. Pour l'instant, c'est mal parti si elle passe vaccinale.
Et ouais, c'est une histoire de picouze, la suite du match Nadal-Djoko.
Il peut en perdre beaucoup. Et là-dessus, j'ai bien envie de mettre, s'il n'est pas blessé, une petite pièce sur... Nadal à Roland-Garros pour aller chercher son 14e titre.
Mais là, c'est un tournant encore parce qu'il est, si il est vraiment en forme comme à l'Open d'Australie, il n'y a aucune raison qu'il soit, il est encore meilleur quand c'est sur terre battue, il n'y a aucune raison que quelqu'un le batte. Hein, surtout à ce niveau-là.
Plus Federer, donc.
Oui, mais chacun ses préférences, voilà, on est bien d'accord.
Bah, on enchaîne avec d'autres disciplines.
Justement, parce que un dernier petit mot, parce que vous m'avez charrié, je voulais dire quand même la victoire d'Ashley Barty. En 2-7 face à Daniel Collins.
C'est l'histoire.
C'était pas arrivé depuis 1978 qu'un Australien ou une Australienne gagne à Melbourne.
Encore plus que Roland-Garros,
tu vois.
Ça a été corrigé. Donc Ashley Barty lève le trophée chez les femmes. On parle de cyclisme, Charles. C'était les mondiales de cyclocross à Fayetteville. En Arkansas.
Exactement. C'était les championnats du monde et le favori, le petit minot britannique qui n'a pas déçu du tout. Hein.
Pidcock.
C'est Thomas Pidcock.
Pidcock qui s'impose et qui succède à Mathieu Van Der Poel dans la lignée des grands cyclocrossmen.
En l'absence des gros favoris, Van Der Poel et Van Aert, c'est...
Parcours
c'est
très roulant.
Très roulant.
Sec, sous une chaleur de plomb. Hier à Fayetteville, donc avantage pour Pidcock. Un parcours qui était... pas franchement difficile.
Non, mais c'est ça, c'est un parcours très roulant, un parcours qui du coup avantageait Thomas Pidcock au dépens d'Alizer Bild qui préfère les circuits plus où il y a des changements de rythme très soutenus. Il préfère les résultats, Tom Pidcock, il en a profité. C'était
le favori,
il a coché le rendez-vous et ça fait de lui le champion.
Et le maillot arc-en-ciel sur les épaules, donc c'est Lars Van Der Haar, deuxième, et Elizer Bild,
le grand artisan de la saison qui
finira troisième. Ça courait sur route, Grand Prix la Marseillaise.
Juste avant, on va donner quand même le résultat des femmes. C'est Marianne Vos qui s'impose
une fois de plus
du côté des femmes devant Lucinda Avrand, qui pourtant là, celle qui extermine entre guillemets la Coupe du Monde de cyclocross chez les femmes. Marianne Vos qui a su se mobiliser pour remporter ce championnat du monde. La troisième place revient à l'italienne Sylvia Persico.
À noter la belle 8e place d'Hélène Covell, la française.
Et chez les hommes, Clément Turini 5e.
Ouais, correct. Correct pour Venturini. On passe sur route, Grand Prix la Marseillaise. Début de la saison cycliste.
Exactement, c'était le retour des premières courses cyclistes. Et le Grand Prix la Marseillaise revient aux Belges. C'est Amaury Capio de l'Arkéa Samsic. Il s'impose au sprint devant Pedersen et Galvan, l'Espagnol. Donc une belle victoire pour la team Arkéa Samsic, et Amaury Capio, ça fait une première victoire pour lui.
Coquart 5e du sprint.
C'est ça, Coquart 6e. C'est Cosnefroy 5e. Voilà, donc ça commence très bien. À noter que malheureusement le Tour de San Juan est annulé.
Cause Covid. Donc ça, c'était l'Argentine. Hein.
Exactement. Donc prochaine grosse étape du World Tour, ça sera le Tour des Émirats Arabes Unis à partir du 20 février.
Très bien, et les classiques arriveront un peu plus tard. Hein. Mars, avril, on reviendra avec chasse patate pour parler.
Et le Tour de la Provence en France à partir du 10 au 13 février.
C'est noté. Un mot de golf alors sur l'European Tour. C'est la victoire pour Victor Hovland.
C'est ça, le Norvégien.
Quitté le PGA Tour pour aller chercher un gros chèque. Hein.
C'est ça, une des grosses têtes du golf européen qui s'impose devant Bland et notamment Rory McIlroy, troisième. Une nouvelle victoire pour lui.
Rory McIlroy, il n'arrive pas à remonter. Hein.
C'est compliqué.
C'est pas encore le moment. Et puis là, tu sais qu'il était dans les couches, hein, puisqu'il a eu. Ils ont eu un enfant avec sa femme en fin d'année dernière. Donc, il était un petit peu concentré sur autre chose.
Premier Français, Romain Langasque, qui finit 18e.
Ouais, il faut aussi. Cécile Boutier qui finit 4e en Floride, au Boca Raton. C'est son troisième top 5 d'affilée. Et c'était pas mal. Elle est 25e mondiale.
Ah oui, elle
peut taper le top 20, là.
Elle commence à se faire une place hein, sur le circuit américain. Ça y est. Chez les garçons, c'était le Sanderson Farm. Victoire de Luke List en playoff face à Will Zalatoris.
Hein. Will Zalatoris, on se souvient qu'il avait fait deuxième au Masters en 2021 à Atlanta. Qui du coup il perd du coup, ce playoff face à List. Bah c'est une bonne première victoire.
Yon Ram qui fera troisième à un coup. Dommage pour l'Espagnol.
À égalité avec Jason Day et Tringle.
Ouais, Jason Day qui fait un retour, hein, l'Australien qui était absent des top 10 depuis un petit moment.
Les Français, n'en parlons pas.
Ouais, je voulais, puisqu'on a un peu de temps, qu'on se projette sur les JO de Pékin. Ça commence samedi.
Exactement, ça commence directement. C'est samedi, c'est tout proche.
C'est samedi, et je voulais qu'on voie ensemble les chances françaises. Qui est-ce que vous voyez ramener des breloques? Alors peut-être on va commencer par qui est-ce qui peut ramener un titre, Jean-Marc?
Eh bien, allez, Quentin Fillon Maillet.
Ouais, sur la poursuite ou une autre course, la Mastart.
Après, pourquoi pas Émilien Jacquelin.
Jacquelin pour un titre.
Ouais.
Peut-être, ouais, on ne sait jamais, sur la Mastart.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être Julia Simon ou...
Justine Brezaz aussi. Ça peut être vraiment...
l'individuel.
Ça peut être la bonne surprise. Il peut y avoir beaucoup de titres, effectivement, en biathlon, mais c'est une discipline quand même, on sait bien, un peu aléatoire. Hein. On ne peut pas... On ne peut pas savoir, c'est pas le meilleur qui va l'emporter.
Je pense que sur toutes les courses, on devrait quand même avoir quelques médailles.
Ouais, moi aussi. Oui. En tous les cas, Quentin Fillon-Mahé, ça devrait faire la médaille et le titre. Papadakis Cizeron, je crois que tout le monde est d'accord. Oui, voilà, ça va faire aussi.
Il n'y a rien à dire là.
Une médaille d'or.
C'est à garder.
Perrine Lafont, ça devrait faire une médaille d'or aussi.
Oui, Perrine Lafont, c'est...
En principe.
Pourquoi pas...
Test le 2 en snowboard, ça peut
faire un truc. Elle est vraiment en forme en ce moment. Et côté, par contre, scalper masculin, bon...
Des médailles, peut-être pas des titres, mais des médailles. Il faudra pas décevoir, je pense notamment à Clément Noël sur slalom, qu'on attend, mais...
Je sais pas pourquoi, mais moi, je le vois se craquer. Alors, je sais pas si... J'espère
avoir tort, mais... En plus, il va falloir attendre la dernière journée des Jeux Olympiques pour avoir le slalom, donc... Il aura la pression.
Pourquoi pas Pimpin aussi.
Pinturo sur un combiné, ouais, peut-être.
C'est ça. Pinturo sur un combiné ou sur le slalom. Mais c'est vrai que sinon, après, j'ai du mal. Et pourquoi pas aller chez les femmes, Tessa
Worley. Ouais.
Ça sera la seule où on peut mettre une petite piècette, je pense.
Mais c'est sans certitude, hein, tout ça. Ce ne sont pas des médailles qui sont in the pocket. Hein,
tout comme en fond.
Alors, il y a deux sprinteurs qui peuvent aller chercher une breloque, c'est Jouve et Chavana.
Oui.
Si Klebe laisse des miettes, de toute façon, il restera deux places hein, pour monter sur le podium. Ces deux garçons peuvent éventuellement, sur un 10 km, aller chercher la breloque. Et Magnifica, pourquoi pas, hein, pour
oui.
Qu'est-ce qui serait une bonne
perf? Tirer sa révérence.
Qu'est-ce qui serait une bonne perf pour la France?
Enfin,
en nombre de médailles.
6 titres et 20 médailles.
Ok, non.
Ça, c'est une belle paire.
Moi, je dirais.
Les titres, on n'en est pas loin là. On en a 4, 5.
Je dirais au moins 4 titres avec au moins
15 médailles.
J'aurais mis 15 médailles.
5 titres, 15 médailles, quoi. Ça, c'est l'objectif.
En moyen, c'est ça. Si c'est 6 et 20, c'est super paire.
On peut péter le champagne là.
Il y a du ski cross hein, aussi où on peut faire des médailles, voire en snowboard.
Oui, avec les. Comment ils s'appellent?
Mais c'est assez aléatoire en fait, le ski cross, puisque que tu peux te casser la figure.
C'est avec Merlin Surgé notamment en snowboard cross. Il y avait sur le ski cross.
Les frères Midol. Il y a du monde.
On a du monde. Et même chez les femmes aussi. Mais tout ça, c'est très, très souvent très aléatoire, même s'il y a quand même une certaine régularité à chaque fois dans les Coupes du Monde. Mais c'est vrai qu'effectivement, on espère vraiment avoir un petit peu de la chance et que ça soit avec nous. Et pour pouvoir faire. On peut faire vraiment une belle performance, notamment sur ces skis et snowboard cross. On espère que la chance soit avec nous.
Ouais, la mauvaise nouvelle, bien sûr, hein, c'est le décalage horaire. Hein. Il va falloir se lever très, très tôt pour aller...
C'est entre 8h, je crois, 6h et
14 après 14h. Ouais, ça va faire un peu comme à Tokyo. Hein, parce que
un peu plus tard quand même, ce qui fait que ça... On va dire que c'est toute la matinée, on va dire ça.
Ouais, c'est ça, ça commence à 4h, de 4h à 15h.
Ouais, c'est ça.
On mettra Jérémy sur tout ça. Ouais. Et toi, tu verras, en rentrant, tu verras le patinage artistique.
Ouais, on parle un peu de rugby, là. On est à 6 jours du début du tournoi.
Exactement. Mais je voulais juste un petit mot d'abord au niveau du championnat. Et on va commencer par Vannes. Et encore une belle victoire pour les Vannetais, ouais, qui n'arrêtent plus de gagner. 33-10 face à Mont-de-Marsan qui était deuxième.
Hein. Vannes ne rigole plus.
Exactement, il n'y a plus de blague. 33-10. Vannes qui a un match en retard contre Agen. Et s'il venait à l'emporter, il reviendrait dans la course à la cinquième place pour jouer les play-offs.
Bah, et s'ils arrivent à jouer la fin des play-offs, hein, franchement, ça serait une belle performance.
Ouais, parce qu'il revient du diable Vauvert. Hein.
C'est ça.
Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein.
C'est quand tu es lancé, je ne vais pas vous parler de course et de la belle victoire de Davidson Dupont et de la première du fils à Jean-Michel Bazir, mais c'est un peu comme les courses
tout
de
chevaux. Tout à fait, oui. Mais à l'Arabie, tout peut se passer. Hein. C'est
exactement
chaud à l'Arabie.
On est d'accord. On essaiera d'y aller d'ailleurs si le Covid nous permet d'avoir des places. Et autrement, les petites victoires qu'il y avait en top 14. La victoire, c'était hier soir à l'arraché du Stade français.
Contre Toulon.
Contre Toulon, deux petits points, 26-24, je crois.
Rien ne va plus hein, pour le RCT. Hein.
Et c'était le trophée Dominici, d'ailleurs.
Exactement, en hommage à Christophe Dominici qui nous a quittés
l'année dernière.
De l'autre côté, c'est samedi soir, c'était Toulouse qui recevait le Racing dans le choc de cette journée. Toulouse qui s'est incliné malgré Dupont et Ntamack qui étaient présents, 20-15, notamment avec deux pénalités en fin de match à la 76e et la 79e de Maxime Macheneau. La pénalité de Romain Ntamack à la 80e pour arracher le point de bonus défensif.
Alors là, c'était le trophée Pierre de Coubertin entre Toulouse et le Racing.
Exact. Bordeaux-Bègles qui continue sa bonne avancée et son leadership en tête de ce top 14avec une victoire 23-10. À Castres, rien à dire, Bordeaux qui continue vraiment
à être en tête.
Être en tête largement avec 10 points d'avance sur Montpellier qui a un match en moins.
La belle victoire de Brive, 33-10 Biarritz. Pardon.
Brive qui se donne un peu d'air.
Exactement, tout comme Pau qui bat Clermont 28-20. Et la grosse surprise, moi j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout, la victoire de Montpellier, 29-23 à La Rochelle, à Marcel de Flandre.
Ah mais c'est une très belle surprise, Montpellier qui remonte deuxième. Et au classement, on voit que La Rochelle est sixième, c'est très serré avec La Rochelle 36 points, Clermont 34, Racing 34, Pau 32, Stade Français 31, après c'est un peu plus loin avec 27 points. Et à noter que Toulon est 13e à 23 points.
Ouais, ça m'inquiète.
La relégation.
Hein. Ça sent la relégation. Ça va changer avec Colbin Chesley qui vient d'arriver.
Voilà. Il vient juste de commencer, donc on lui laisse une semaine. Après, il va se mettre à fond. Le dernier match, c'était la victoire importante de Lyon à Perpignan, 28-23. Et on va parler du tournoi maintenant.
Le tournoi, c'est samedi, France-Italie.
Dimanche, à 16h.
Dimanche à 16h, France-Italie. Ouais, on espère évidemment que c'est la bonne année pour les boys hein, et qu'ils vont lever le trophée. Hein. Avec le meilleur joueur du monde dans le squad.
Non mais là, cette année, pour préparer
ils ont le meilleur programme
monde,
déjà. Hein,
exactement.
Puisqu'ils vont jouer à domicile l'Angleterre, l'Italie et l'Irlande. Mm-hmm. Et qu'ils vont se déplacer en Écosse et au Pays de Galles.
Oui, c'est ça. Le crunch fera en France.
Voilà. Donc, en général, quand tu as trois matchs à domicile, tu es un peu favorisé.
Un petit peu.
Forcément, et donc là, après deux tours de destination où ça s'est un petit peu compliqué, où on était pourtant parmi les favoris et on s'est un petit peu écrasé, et résultat, on finit deux fois deuxième, je crois. Et là, c'est à nous maintenant de vraiment d'y aller et de remporter.
Vu les matchs test cet hiver, je pense qu'on devrait faire quelque chose.
Oui, oui.
Alors, on fera pas le coq non plus à être fier et avoir les pieds dans la merde, mais du coup. Il y a tous les trucs sont au vert.
Tous
maintenant,
les ingrédients.
Il va falloir, dès l'Italie, rentrer dans le tournoi en gagnant bien ce match.
En mettant une belle claque.
Surtout en allant chercher tous les points,
avec la
points de bonus, mais en montrant l'impact face directement face à l'Italie.
Impressionner l'adversaire.
Exactement. Voilà.
Les autres adversaires directement.
Voilà.
Bon, impressionner l'Italie déjà.
Ça serait bien. Hein, parce que je ne cache pas que si l'Italie vient gagner au Stade de France. Là, c'est la virée finale.
Match, hein. Ce serait pas au Stade de France, ils vont gagner leur deuxième quand même.
Si l'Italie bat la France, je pique la cassette de Jean-Marc.
Je me barre à l'étranger.
Il semblerait que Galtier ait trouvé la bonne formule. Mmh. Hein, oui. On n'est plus en train d'essayer tel ou tel joueur. Il a son squelette. Hein.
Il a son 15, je pense, avec la moitié, c'est des Toulousains. Donc.
Oui, et puis il y a un petit joueur qui arrive, je crois que c'est. J'ai plus de club, c'est Mont-de-Marsan, je crois. Léo Colli,
ouais.
J'ai trouvé.
Il a une très belle saison avec Mont-de-Marsan.
Il va faire ses courses en Pro D2, je trouve ça assez marrant de la part de. J'espère qu'il a raison.
Ah bah il a raison aussi.
Alors je pense que c'est de l'anticipation parce que Léo Colli sera forcément en top 14 l'année prochaine.
Le dernier grand chelem des Bleus, ça remonte à quand vous avez...
À longtemps. 7 Non, dans les années 2010 à peu près. Ouais.
2011, 10 ans.
Je crois
par
à peu
là,
près,
il y a une dizaine d'années. Hein,
ça devait être la porte, sous la porte.
Ouais. Et ben on leur espère donc de. Meilleure fortune cette année. Un mot de sport méca. On a parlé de Sébastien Loeb. Il était au trophée Eandros à Superbès. Il finit cinquième de cette super finale. Et puis Sébastien Ogier donc, a annoncé qu'il s'engageait sur la saison d'endurance. Donc les 24 heures du Mans. Et voilà. Ça commencera pour lui à Sebring en avril.
Voilà, aux 12 heures de Sebring.
Et la victoire de Pagenaud. Aux 24 heures du Daytona.
De Daytona, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La belle victoire de Simon Pagenaud, qu'on reverra peut-être aussi dans quelques temps aux 24 heures du Mans. Ça va être intéressant tout ça.
Mm-hmm. Ouais.
Eh ben, on a été complet ce soir sur les résultats sportifs du week-end. On va passer l'antenne à nos potes de Passage en Force hein, pour parler de NBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ciao.
Ciao. Bonsoir. Ciao.